Bonjour, vous écoutez l'Atelier des médias et je m'appelle Steven Jambeau.
RFI.
Le mouvement des Gilets jaunes en France est parti d'une pétition en ligne contre la hausse des taxes sur les carburants. La grogne et la mobilisation qui a suivi a utilisé Facebook, ses pages, ses groupes et les vidéos en direct Facebook Live. Sur le réseau social de Mark Zuckerberg, des communautés estampillées Gilets jaunes rassemblent désormais des centaines de milliers de membres. Alors comment le mouvement des Gilets jaunes a-t-il pris sur Facebook et comment ces acteurs s'organisent-ils sur la plateforme ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons Dominique Pasquier, Fabrice Epelboin et Brigitte Seba nous rejoindra par téléphone. Et j'informe ceux qui nous écoutent que cette émission a été enregistrée mercredi 5 décembre, alors qu'un nouveau rassemblement des Gilets jaunes était déjà prévu à Paris ce samedi.
Quand les blocages vont avoir lieu, le gouvernement a affirmé sa position de ne rien vouloir changer. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on ne peut pas arrêter un système sans se battre contre.
L'Atelier des médias.
Bonjour Dominique Pasquier.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et directrice de recherche au CNRS et enseignante chercheuse à Télécom Paris Tech. Et vous avez récemment publié l'Internet des familles modestes, une enquête dans la France rurale. C'est paru aux presses des mines. Avec nous également Fabrice Epelboin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris autour des problématiques de surveillance de masse et également sur le côté obscur des réseaux sociaux. Alors j'ai souhaité vous inviter aujourd'hui pour parler du mouvement des Gilets jaunes et je vais d'abord me tourner vers vous Fabrice. Le mouvement des Gilets jaunes est en fait une organisation totalement organique et ce n'est pas un mouvement mais plutôt des dizaines, des centaines, des milliers de mouvements.
Des milliers de mouvements, c'est peut-être pour ça qu'il faudrait éviter d'appeler ça un mouvement, mais c'est très tentant, c'est plus un phénomène qui se développe à travers une multitude d'initiatives très locales qui vont de l'occupation du rond-point à des choses un peu plus construites, comme bloquer le supermarché qui a détruit les centres-villes de son petit patelin, ou mille autres choses encore. Et puis au fur et à mesure des jours, certaines initiatives se tarissent, d'autres au contraire réunissent et fédèrent. Et on a ce cycle hebdomadaire assez spécifique au mouvement qui fait que régulièrement ce mouvement est ponctué de déchaînements de violence qui ont lieu à la capitale, pour ensuite revenir sur les provinces et se continuer à s'alimenter.
Ce que ce mouvement ou ces mouvements ont en commun, c'est de s'être développé sur Facebook. Et est-ce qu'on peut dire que le mouvement est né sur Facebook ?
L'infrastructure politique du mouvement, c'est Facebook. Ce qui pose d'immenses problèmes, à commencer par un problème de souveraineté numérique, parce que sur Facebook, nous sommes sur le territoire américain, protégés plus ou moins par le Premier Amendement, ou en tout cas, on peut très facilement avoir cette protection. Ce qui est totalement disruptif aux yeux des institutions de la Ve République, ça c'est certain. Sans Facebook, il n'y aurait pas eu ce mouvement. Sans Facebook, il n'y aurait pas eu le printemps arabe. C'était traité comme un propos ridicule il y a 10 ans quand je le tenais. Aujourd'hui, ça semble une évidence.
Est-ce qu'on peut dire également que ce mouvement, alors là, concrètement, il ne se passe pas juste en ligne, mais il a véritablement pris la rue et on est dans quelque chose de totalement désintermédié qui vit un petit peu tout seul.
On est dans quelque chose de désintermédié du fait qu'on a mis à mort les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires ne représentaient plus grand monde depuis bien longtemps, mais là, ces dernières années, ils ont été littéralement mis à mort. Les partis politiques ne recueillent pas la moindre confiance de la part des Français. La plupart des institutions, mis à part les institutions locales comme la municipalité, ne recueillent pas du tout la majorité de la confiance des Français. On est dans la fin d'un système qui est la Ve République.
Dominique Pasquier, dans votre enquête sur l'Internet des familles modestes, vous rendiez compte du fait que Facebook était devenu véritablement incontournable. Alors Facebook, rappelons-le, c'est apparu en 2004, donc c'est au final assez récent. 63% des internautes français sont sur Facebook, dernier chiffre que j'ai trouvé. Expliquez-nous justement Facebook, dans certaines familles, en milieu rural notamment, est incontournable. C'est la première chose que l'on consulte le matin parfois ?
Alors ça, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette enquête, c'est que des gens qui s'étaient connectés plus tard que les autres, plus tard que les classes moyennes supérieures, ont complètement intégré l'outil Internet dans leur vie quotidienne, au point de le ritualiser, effectivement. C'est, je prends mon café le matin, je regarde mes notifications Facebook en même temps. Mais je dirais que sans doute que Facebook correspond à un type de rapport à l'écrit qui convient à une population qui a été faiblement scolarisée, disons. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient tous un diplôme inférieur au bac. Les comptes Facebook sur lesquels j'ai travaillé sont des comptes d'ouvriers ou d'employés des services à la personne. Donc, ce sont des salariés subalternes. Et c'est vrai que le rapport à l'écrit compliqué type le mail, par exemple, est quelque chose qui restait étranger à cette population. Et sans doute que Facebook correspondait à la fois à ce type de rapport à l'écrit et à la fois au type de lien qu'on voulait créer avec son entourage. Moi, ça m'a frappé quand j'ai travaillé sur ces comptes et sur les échanges, de voir à quel point c'était finalement un réseau de l'entre-soi avec les membres de la famille large qui étaient présents en amis sur le réseau, et très très peu de gens extérieurs. Donc c'est pas des comptes ouverts, c'est des comptes à petit nombre d'amis, une soixantaine en nombre médian, et c'est des comptes où on parle avec ceux qui ressemblent à qui on est.
Est-ce que l'on s'informe sur Facebook ?
Alors, on reçoit des notifications, mais je dirais que ce qui m'a frappé aussi, c'est que c'est pas qu'on s'informe à travers la presse ou à travers les médias, c'est qu'on s'informe à travers une circulation d'informations qui tourne à travers des liens partagés. Donc on le voit bien, moi j'ai issu ces comptes d'une grosse enquête qui s'appelle Agopol, où il y avait 12 000 comptes qui étaient aspirés. Et on voit très bien que sur les 12 000 comptes, quand on regarde d'autres comptes, des comptes de classe supérieure, il y a beaucoup en liens attachés, il y a des articles de journaux, de presse nationale, d'émissions de radio, etc. Là, pas du tout. L'information, elle vient pas des médias, elle vient de ce que d'autres ont relayé. Donc c'est une information sur un mode circulatoire, avec effectivement en grande partie des rumeurs, des fake news, des choses qui sont parfois incontrôlables, parfois très fantaisistes, mais qui sont finalement qui circulent. C'est vraiment la caractéristique principale.
Et dans cette circulation, justement, est-ce que vous avez trouvé une similitude entre les usages constatés dans votre enquête et ceux des gilets jaunes ces dernières semaines, ces derniers mois qui sont organisés sur Facebook ?
Alors ça m'a beaucoup étonné quand le mouvement a démarré il y a quelques semaines. D'abord, c'est les gens que j'ai vus, c'est les classes populaires non précaires qui sont, à mon avis, au cœur de ce mouvement des gilets jaunes. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont un métier, un boulot, mais des fins de mois difficiles, des travailleurs pauvres, ils s'en sortent à peu près. Mais il suffit d'un petit truc pour que ça bascule. Et ce petit truc, il peut arriver tout le temps. Ça peut être la perte d'un emploi du conjoint ou quoi que ce soit. Mais ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on voit que tout le rapport aux politiques se crée sur une vision, une analyse du monde qui est complètement triangulaire. Il y a la haine des élites politiques, mais qui est une haine très violente, qui s'exprime souvent dans un vocabulaire ordurier, souvent sexuel. Et donc, il y a un mépris complet de la classe politique qui ne représente plus du tout les gens. Et puis, il y a aussi le mépris et surtout la rage contre ceux qui bénéficient de l'assistance sociale, de l'aide sociale. Donc, c'est un monde à trois où finalement, les gens expriment dans leur compte l'impression d'être pris en étau entre ce duo qui s'en foutent d'eux, qui ne connaissent absolument rien de leur réalité, et qui s'enrichissent. Parce qu'il y a tout ce thème sur les hommes politiques, la place est bonne, etc. C'est-à-dire l'impression que le personnel politique fait ce métier pour s'enrichir. Et puis, ceux qui sont au RSA et qui ne travaillent pas. Et l'être entre les deux est une chose qui est vécue de façon dramatique.
Sur le compte Twitter de l'Atelier des médias, Yvonique Lemaire pose la question de savoir si les utilisateurs réfléchissent à leur réputation en ligne et aux traces laissées en ligne. C'est un espace au final où ces familles modestes dans ces milieux ruraux se sentent en confiance et donc parlent sans filtre.
Elle parle sans filtre, et je crois que à l'époque où je faisais mon enquête, le débat public portait beaucoup sur la protection des données personnelles, et c'était vraiment pas un sujet qui les intéressait ou qui les concernait. Donc on voit bien qu'il peut se passer finalement une certaine confiance à s'exprimer avec ses proches, à faire circuler des panneaux, à faire circuler des informations avec ses proches sur un réseau social numérique comme Facebook, et être assez à l'écart finalement des grands débats de société sur la fiscalité des GAFA ou la protection des données personnelles. Il y a une déconnexion, c'est clair.
Fabrice Eppelboin, de ces dernières années, Facebook a également évolué, et notamment son algorithme, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les contenus apparaissent dans le fil d'actualité des utilisateurs, fait que les interactions entre les gens sont favorisées, les groupes sont favorisés. Qu'est-ce que cela a comme effet pour l'utilisateur final ?
Alors c'est la conséquence d'une décision de Mark Zuckerberg qu'il a pris...
Le patron de Facebook, donc rappelons-le.
Au milieu de cette année, suite à un voyage dans le cœur de l'Amérique profonde, qui initialement était vu comme un début de campagne électorale de sa part, avant évidemment l'affaire Cambridge Analytica qui a mis fin à ce genre d'espoir de sa part. Et Zuckerberg a décidé qu'il allait favoriser les groupes au détriment des pages. Ça a été une catastrophe en termes d'audience pour les médias, qui ont perdu une très large partie de leur audience venant de Facebook, et ça a créé du social localement, ce qui était l'intention initiale de Zuckerberg, avec cet effet de bord qui sont effectivement les gilets jaunes, où tout d'un coup, localement, les gens se sont retrouvés retrouver, on refait société, une société qui avait été assez décimée par typiquement l'implantation des centres commerciaux qui ont vidé les centres-villes, et à partir de là, se sont trouvés un plus petit dénominateur commun. Ce plus petit dénominateur commun, je crois qu'il est très clair, hein, c'est cette haine des élites qui s'accompagne d'une myriade de revendications et qui leur ont permis tout d'un coup de prendre conscience de leur existence et de prendre conscience de leur capacité à agir ensemble.
Avec nous par téléphone, Brigitte Seba, qui est enseignante et chercheuse à l'université Toulouse 3. Bonjour Brigitte Seba.
Bonjour.
Avec trois autres chercheurs, vous avez décortiqué des milliers de tweets, de posts Facebook, de commentaires dans les groupes, pages Facebook des Gilets jaunes. Alors, votre objectif premier, c'était d'analyser le vocabulaire employé et les prises de parole. Et votre constat, c'est qu'il y a au final des revendications communes et qui sont tout de même structurantes de ce mouvement.
Oui, ce qu'on a pu en analysant donc des pages de groupe, 10 journaux aussi, mais bon, pour la parole des Gilets jaunes en tout cas, les commentaires de la pétition aussi qu'on a extrait depuis le mois de mai, hein, quand elle a été lancée, ça fait 56 000 commentaires à peu près, 2 millions de tweets, tout ça, ça nous donne l'idée qu'il y a une structuration au moins des objets de contestation, c'est-à-dire qu'on était parti de l'hypothèse qu'ils étaient assez divers et variés, c'est ce que les médias semblaient dire aussi, et là on s'est aperçu que non, en fait, tout était assez étayé, argumenté et tout convergé finalement par rapport aux injustices sociales, aux inégalités, aux inégalités sociales, aux injustices fiscales, et tout ça était avec des exemples, etc. Mais il y a des arguments, il y a un discours politique, quoi. Il y a un discours politique.
Vous dites même que c'est l'affirmation croissante et argumentée d'une citoyenneté qui émane de ce mouvement.
Oui, parce qu'ils prennent position par rapport au déséquilibre qu'ils identifient dans la façon qu'a le gouvernement ou l'action publique de se développer. Et pour le coup, tout à l'heure vous parliez de mouvement. Est-ce que c'est un mouvement ou pas? Enfin, à un moment donné, là au début, c'est vrai qu'on voit pas, on peut pas parler vraiment de mouvement. On peut parler de répertoire d'action parce que ça, il y en a beaucoup, mais on peut surtout parler de mouvement. Mouvement au sens, c'est les revendications qui font mouvement en fait, hein. C'est codifié, c'est régulier, c'est symbolique, il y a quelque chose de très lié, voilà. Alors ça passe de la taxe au carburant qui a été en premier mis sur le devant de la scène, puis très rapidement on a eu la transition écologique qui est un souci pour eux. Contrairement à ce qu'on pensait au départ. Pour eux c'est un faux prétexte et elle est mal gérée par le gouvernement. Cette transition écologique, donc ils ont des choses à dire, la transition écologique, mais aussi l'absence d'infrastructures en zone rurale, les problèmes de la baisse du pouvoir d'achat, etc. Donc tout ça est évoqué par les Gilets jaunes.
Depuis la fin de votre étude, est-ce que vous avez observé des changements sur Facebook et sur d'autres plateformes dans la façon de communiquer, d'échanger des informations autour de ce mouvement?
Oui, là on est en train de conduire la suite plus ou moins de l'étude, c'est-à-dire qu'on est en train de récolter, parce que là on a fait jusqu'au 17 novembre et là on fait la suite. Et pour le coup, ce dont on s'aperçoit, mais ça on s'en était déjà aperçu, c'est que ce sont des gens qui ont une connaissance des codes des réseaux sociaux. Ils savent notamment, je pense, presque intuitivement que l'algorithme favorise aussi, vous avez dit ça favorise les groupes, mais ça favorise aussi les formats natifs.
Donc les notamment lives. Facebook Live, oui, donc les vidéos en direct sur Facebook.
Exactement. Voilà, donc ça on en a énormément, donc ça on va regarder un peu la proportion et ce qu'elle raconte, ce qu'elle véhicule. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a, enfin ce dont on se doute, c'est le mur auquel on est confronté, nous en tant que chercheurs et vous en tant que médias. Ce mur, c'est les conversations sur les plateformes de messagerie, donc Messenger, WhatsApp, etc. ou Telegram. Là, je pense que le mouvement il doit se structurer aussi. Enfin, il y a des choses qui circulent, etc. Mais ça, nous n'y avons pas accès, nous ne pouvons pas savoir. Et par contre, ce qu'on avait vu dans notre premier travail, c'est que c'était encouragé quand même à aller sur ces messageries. C'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté aussi de façon souterraine de structurer le mouvement.
Parce que c'est moins public, parce que c'est codé, crypté pour le cas de WhatsApp par exemple?
Oui, parce que aussi au début du mouvement, si vous vous souvenez, Emmanuel Macron avait reçu, je crois, les représentants de Facebook pour discuter avec eux des Gilets jaunes, de la question des fake news, etc. Donc il y a eu je pense, une sorte de crainte, en tout cas qu'on a trouvé de temps en temps exprimée en mode on n'a pas envie d'être fiché, quoi, simplement. Donc ils n'ont pas envie d'être porte-parole. Donc ils ne veulent pas être identifiés et donc ils préfèrent faire ça de façon anonyme sur des conversations et à la fois ils n'ont pas envie d'être fichés, ça c'est sûr.
Merci Brigitte Seba d'être venue nous parler
Merci
de votre étude.
Merci à vous.
Dominique Pasquier, j'aimerais qu'on discute avec vous de la façon dont les familles modestes considèrent les médias et utilisent ou partagent des contenus créés par des médias traditionnels, on va dire.
Alors, une des choses qui était frappante dans cette enquête, c'est que d'abord, les gens ne lisent pas la presse. Ils écoutent la radio parce qu'ils sont beaucoup en voiture. Et ils regardent encore la télévision, moins souvent tous ensemble en famille comme ils le faisaient avant, mais il y a beaucoup de postes, il y a encore une consommation de télévision importante. Mais le rapport aux médias, malheureusement, semble être associé assez fort à l'idée d'une collusion avec le pouvoir politique où finalement on leur cache la vérité. Alors, c'est à la fois, d'un côté, le fait qu'on s'informe très peu, par la presse écrite étant absolument pas lue. La seule presse qui est un peu lue, c'est la presse locale, c'est même pas forcément régionale. Donc les petites feuilles qui sont communales et qui donnent vraiment du fait divers. Et il y a cet intérêt pour le local qui est très très fort, qui l'emporte surtout. Mais du coup, le reste, c'est loin, c'est très très loin.
Merci à tous les deux d'être venus nous voir dans l'atelier des médias.
Merci.
atelier@rfi.fr.
C'est l'heure de notre nouveau rendez-vous Mondoblog et ses 750 blogueurs francophones. C'est désormais leur voix que vous pouvez entendre ici dans Mondoblog Audio. On part au Mali avec Ousmane Traoré.
Les dénonciations sur les réseaux sociaux ne suffisent pas à améliorer le quotidien des Maliens. Oui, on peut changer le monde, mais il faut plus que des publications sur Facebook. Au Mali, on a l'habitude de dire que Dieu est la seule cause et la solution de tous les problèmes. Alors, espérons que les anges aient des comptes Facebook afin que le ciel nous entende. Aujourd'hui, des jeunes web activistes scrutent à la loupe la vie politique du pays. Ils protestent, ils dénoncent les moindres écarts du gouvernement et sensibilisent le peuple. Avant, les Maliens se plaignaient autour d'un thé. Aujourd'hui, ils continuent de se plaindre sur le web. Si les mouvements citoyens de protestation tels que Yanamar au Sénégal ou Ballet citoyen au Burkina Faso ont fait tache d'huile, c'est qu'ils ont su utiliser opportunément les réseaux sociaux. L'intérêt des réseaux sociaux, c'est la capacité à créer une mobilisation de masse. Tant que les cris ne se font pas dans les rues, mais seulement sur les murs Facebook, ces protestations confinées à l'espace virtuel comme Terrempouk du beurre. Nos Gandhi du web ont beau poster, liker, partager, aucun impact majeur ne se fera sans une lutte concrète à la Thomas Sankara.
Facebook, mur de lamentation des Maliens, c'est un article d'Ousmane Traoré que vous pouvez retrouver en intégralité sur mondoblog.org. Et avant de se quitter, je voulais vous parler de Session Lab. Session Lab, c'est un rendez-vous hebdomadaire produit par les équipes de France 24 Découverte et du RFI Labo. Chaque semaine, on peut entendre trois contenus en son binaural, un son spatialisé, immersif, que l'on écoute impérativement au casque. De nombreux artistes se sont déjà prêtés au jeu. Écoutez par exemple le rappeur Youssoupha.
Entre le soleil et le dark man, colère et les black man, je suis bipolaire, certains m'appellent Proust, d'autres Batman. Pas de solution dans nos rues quand les condés frappent mal, à part chanter la révolution à la Tracy Chapman. Bien sûr que j'ai mes Chapman, à des kilomètres, je fais du rap man. Noir musique, je n'ai pas de maître, musique nègre, ça rend nerveux. C'est plus facile quand t'es blanc, demande à Val, demande à Oral, ça nous nègre feu. Il faut l'admettre, pas besoin que quelqu'un mette au Renoir pour gagner aux victoires de la musique de merde, mentalité jamais prête, toujours coupable, je plaide rarement dans leur festival, donc on fait des concerts au bled quand même. De toute manière on punit, je veux ma peine, son modèle unique, la bannière des États-Unis, la SACEM de Carla Bruni. La galère n'est pas un progrès, faire de la merde n'est pas un projet, je fais la guerre jusqu'à la prochaine. Ma grand-mère est sur ma pochette, guette pour quelques potes, c'est garant. Parfois on se porte garant, mais le rap c'est pas toujours marrant. Fais gaffe, on n'est pas tes parents. Je vais bombarder dans mon bolide, placarder pas mes acolytes. On préfère plaider la folie plutôt que d'aider la police. Sur quelques coups c'est plus un flow, c'est une fontaine. Prochain album, déjà on écoute sur un iPhone 13, putain. On fait sa plaque indépendant, jeune débrouillard. Mon putain de rap n'est jamais mort, alléluia.
Vous retrouverez les liens vers Session Lab sur le compte Twitter de l'Atelier des Médias, atelier_médias.
C'est fini là.
C'est la fin de cette émission qui a été préparée avec Camille Sarrazin, Léo Caravagna et Camille Deloche. À la réalisation, Simon De Creuse. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des Médias.